Bonjour à tous, Yacouba Ouidraougo avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire en cette matinée du mardi 24 décembre, la Somalie accuse les forces éthiopiennes d'une attaque meurtrière contre ses troupes, quelques jours après la signature d'un accord destiné à mettre fin aux tensions entre les deux pays. Au Mozambique, le Conseil constitutionnel a validé hier la victoire définitive du Frelimo, parti historique au pouvoir. Le principal opposant avait promis le chaos si ce scénario se confirmait. Nous ferons un tour dans le village de Dendro, dans l'est de la République démocratique du Congo, où les agriculteurs louent la présence des soldats de la MONUSCO, dont le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé le mandat pour un an.
La MONUSCO nous aide beaucoup avec cette sécurité pour notre survie.
Reportage à suivre dans la partie magazine de cette édition. Ici aux États-Unis, Luigi Mangione, soupçonné d'avoir assassiné un patron américain de l'assurance santé pour se venger contre ce secteur, a plaidé non coupable hier à New York. Dans un peu plus de 10 minutes, les sports avec Eric Manirakiza, juste après l'économie. Mais d'abord, le journal. La Somalie a accusé lundi les forces éthiopiennes d'une attaque meurtrière contre ses troupes dans la localité frontalière de Dolo et de Jubaland le même jour, quelques jours à peine après la signature d'un accord destiné à mettre fin aux tensions entre les deux pays. Jacques Aristide.
L'attaque a visé trois bases tenues par l'armée, la police et l'Agence nationale de renseignement et de sécurité à Dolo et a fait des morts, affirme le ministre somalien des Affaires étrangères dans un communiqué hier. Mais d'après les responsables de l'État somalien semi-autonome du Jubaland, les troupes éthiopiennes, également installées sur la piste d'atterrissage de la ville frontière, dans le cadre de leur mission de maintien de la paix contre les insurgés islamistes en Somalie, sont intervenues pour protéger un groupe d'hommes politiques locaux. Un échange de tirs s'en est suivi jusqu'à ce que les forces fédérales somaliennes soient désarmées et certaines d'entre elles blessées, a déclaré Youssouf Hussein Osman, ministre de la Sécurité du Jubaland. Le gouvernement fédéral somalien s'est affronté ces dernières semaines avec des forces du Jubaland pour le contrôle de zones clés de l'État. L'incident menace l'accord entre l'Éthiopie et la Somalie, récemment négocié par la Turquie et accueilli avec soulagement par la communauté internationale, inquiète des tensions entre les deux pays depuis qu'Addis Abeba a paraphé un protocole d'accord avec la région séparatiste du Somaliland pour louer 20 km de côte et avoir ainsi un accès à la mer.
La plus haute cour du Mozambique a validé lundi la victoire définitive du Frelimo, parti historique au pouvoir, alors que le principal opposant a promis le chaos si ce scénario se confirmait. Le point avec John Lindon.
Malgré les irrégularités soulevées par différentes missions d'observation internationales, le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire du candidat du Frelimo avec 65,17% des voix, rabotant son score de plus de 5 points par rapport aux résultats initiaux rapportés par la commission électorale en octobre. À l'Assemblée nationale, le parti conserve une large majorité de 171 sièges sur 250, malgré 24 sièges de moins qu'annoncés en octobre. La contestation post-électorale sans précédent a déjà fait plus d'une centaine de morts et pourrait encore se durcir après l'ultimatum lancé par Venancio Mondlane qui revendique la victoire et dénonce des fraudes. La décision du Conseil constitutionnel conduira soit à la paix, soit au chaos, avait-il menacé, appelant à un nouveau soulèvement populaire d'une ampleur inédite. Daniel Chapeau, le candidat du Frelimo, annoncé vainqueur de la présidentielle, a choisi un ton conciliant pour son premier discours de victoire en fin de journée. En vue de notre développement, nous allons continuer à parler à tout le monde, a promis l'ancien gouverneur provincial sans expérience de l'État.
Les États-Unis se disent inquiets concernant le manque de transparence autour des résultats de ces élections au Mozambique. Les États-Unis appellent toutes les parties prenantes à s'abstenir de toute violence et à s'engager dans une collaboration significative pour établir la paix et promouvoir l'unité, a déclaré dans un communiqué Matthew Miller, porte-parole du département d'État, ajoutant que les responsables de violations des droits de l'homme doivent répondre de leurs actes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les organisations de défense des droits humains saluent la décision du président sortant Joe Biden qui a commué hier la peine de 37 des 40 condamnés à mort par la justice fédérale. Il s'agit du plus grand nombre de commutations de peines de mort par un président américain des temps modernes, soulignent des organisations de défense des droits humains mobilisées depuis des semaines pour convaincre Joe Biden. Sur quelques 2300 prisonniers dans le couloir de la mort aux États-Unis, seulement 40 étaient condamnés par la justice fédérale. Jusqu'à la mesure des clémences prises par Joe Biden, 25 exécutions réalisées dans le pays en 2024 se sont concentrées dans 9 États. L'ancien président américain Bill Clinton, dans 78 ans, a été hospitalisé hier à Washington pour une fièvre, a fait savoir son chef de cabinet adjoint Angel Urenard sur X. Il a ajouté que son moral est bon. Président des États-Unis de 1993 à 2001, Bill Clinton a déjà eu dû être hospitalisé par le passé, comme en 2021 lorsqu'il avait développé une infection urinaire qui s'était transformée en septicémie. En 2004, il avait subi un quadruple pontage coronarien pour libérer 4 artères bouchées ainsi qu'une angioplastie en 2010. Luigi Mangione, soupçonné d'avoir assassiné un patron américain de l'assurance santé pour se venger contre ce secteur, a plaidé non coupable lundi à New York des chefs d'accusation de meurtre en tant qu'acte terroriste. Le point avec Jean-Roger Billon.
Luigi Mangione est accusé d'avoir tué par balle le 4 décembre à Manhattan Brian Thompson, directeur général du premier assureur santé privé du pays United Healthcare. Devant la justice de l'État de New York, Luigi Mangione a été inculpé par un grand jury, un panel de citoyens doté de pouvoirs d'enquête, pour 11 chefs d'accusation, dont celui de meurtre en tant qu'acte terroriste. Non coupable, a prononcé le jeune homme de 26 ans. La semaine dernière, il avait déjà comparu pour les mêmes faits, mais dans le cadre d'une procédure distincte devant la justice fédérale, qui a également engagé des poursuites. De nombreux éléments impliquent Luigi Mangione dans le meurtre du patron d'United Healthcare. Ses empreintes digitales ont été retrouvées près de la scène du crime, tout comme des douilles correspondant à l'arme en kit, dont certains éléments fabriqués à l'aide d'une imprimante 3D retrouvée sur lui.
La France a dévoilé hier lundi un nouveau gouvernement composé d'anciens ministres et de hauts fonctionnaires. Le premier ministre François Bayrou espère que ce nouveau cabinet pourra superviser l'adoption d'un budget 2025 et empêcher une aggravation de la crise du pays. Alexandrine Holloyon.
Il s'agit du quatrième gouvernement formé en France depuis le début de l'année. Éric Lombard, 66 ans, directeur de la Caisse des dépôts, la branche d'investissement du gouvernement français, devient ministre des Finances, aux côtés d'Amélie de Montchalin, ministre du Budget. Ils devront commencer à travailler immédiatement avec le Premier ministre Bayrou sur l'adoption d'un projet de loi de finances pour 2025. Parmi les autres nominations, le conservateur Bruno Retailleau reste ministre de l'Intérieur. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et son homologue de la Défense Sébastien Lecornu conservent également leur poste. Elisabeth Borne, qui a quitté son poste de Premier ministre en janvier, est devenue ministre de l'Éducation, tandis que l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin dirigera le ministère de la Justice. Le président français Emmanuel Macron espère que le Premier ministre François Bayrou parviendra à éviter les votes de défiance au moins jusqu'en juillet, date à laquelle la France pourra organiser de nouvelles élections législatives.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué hier avec prudence des avancées pour un accord sur les otages retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du Hamas palestinien en octobre 2023. C'est l'une des conditions israéliennes pour un cessez-le-feu. Des négociations indirectes la semaine passée au Qatar entre Israël et le Hamas avec Doha et l'Égypte comme médiateurs ont ravivé l'espoir d'un accord sur une trêve et une libération des otages à Gaza. Lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien, 251 personnes ont été enlevées, parmi elles 96 restent otages à Gaza, dont 34 déclarées mortes par l'armée. Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a reconnu hier que son pays avait tué en juillet à Téhéran le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh. C'est dans une déclaration où il a menacé de décapiter la direction des rebelles yéménites. L'Iran et le Hamas avaient imputé l'assassinat de Haniyeh le 31 juillet dans la capitale iranienne à Israël, qui n'avait pas commenté. Plusieurs manifestations ont éclaté dans les quartiers chrétiens de Damas ce mardi pour protester contre l'incendie d'un sapin de l'OL près de Hama, dans le centre de la Syrie. On réclame les droits des chrétiens, scandaient les manifestants marchant dans les rues de Damas vers le siège du patriarcat orthodoxe à Bab Sharki. Ils disent exprimer leur mécontentement et leur crainte plus de deux semaines après la prise du pouvoir par une coalition armée menée par les islamistes ayant destitué Bachar al-Assad. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Nous passons maintenant à la page économie. C'est la Minute Éco avec Mohamedou Mfa.
Les agriculteurs de certaines régions productrices de cacao de la Côte d'Ivoire s'inquiètent de l'impact de l'harmattan sur les cultures de cacao car il peut assécher le sol et endommager les cabosses de cacao. Le premier producteur mondial de cacao est en pleine saison sèche de la mi-novembre au mois de mars lorsque les précipitations sont faibles. Les agriculteurs ont déclaré à l'agence Reuters qu'il y avait suffisamment de cabosses sur les cacaoyers pour les récolter jusqu'à la fin du mois de janvier, après quoi la récolte chuterait brusquement. Orano, le spécialiste français de l'uranium, a annoncé le 20 décembre engager un arbitrage international à l'encontre de l'État du Niger. La procédure a été lancée à la suite du retrait de son permis d'exploitation d'Imouraren en date du 19 juin 2024. Plusieurs tentatives de médiation et de conciliation avec les autorités nigériennes sont restées infructueuses, selon le groupe français. Le régime du général Abdourahmane Tiani a fait de la souveraineté sa priorité, en particulier sur la question de son uranium. Le comité de politique monétaire de la Banque des États de l'Afrique centrale a décidé de maintenir inchangés ses principaux taux directeurs. Cette reconduction illustre la prudence de la banque face à une conjoncture régionale et mondiale encore incertaine, malgré le fait que la croissance économique régionale montre des signes de redressement, selon Echo Matin.
Sans plus tarder, nous retrouvons Eric Manirakiza pour la page des sports. Bonjour Eric.
Bonjour Yacouba.
La FIFA modifie sa réglementation sur les transferts.
La Fédération internationale de football a annoncé lundi l'adoption d'un cadre temporaire relatif à la réglementation des transferts des joueurs après une décision de la Cour de justice de l'Union européenne à une semaine du début du mercato d'hiver. Ce cadre porte sur les règles régissant les indemnités pour rupture de contrat, la responsabilité conjointe et solidaire, les incitations à la rupture de contrat, les certificats internationaux de transfert et les procédures devant le tribunal du football, a résumé l'instance dans un communiqué. Il vise à instaurer davantage de clarté et de stabilité en vue des périodes d'enregistrement à venir ainsi qu'à maintenir des règles universelles, a-t-elle poursuivi. Ainsi, la FIFA ajuste sa réglementation sur les transferts de joueurs après une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui examinait en octobre, à la demande de la justice belge, le cas de la Sana Diarra, international français ayant contesté il y a 10 ans les conditions de son départ du Lokomotiv Moscou. En raison d'une réduction drastique de son salaire, Diarra avait quitté le club moscovite, mais ce dernier avait jugé la rupture abusive et lui avait réclamé 20 millions d'euros, ramenés à 10,5 millions d'euros. Le club belge de Charleroi avait renoncé au recrutement du Français par crainte d'avoir à assumer une partie de ses pénalités, conformément au règlement de la FIFA étudié par la Cour. Cette réglementation est de nature à entraver la liberté de circulation des footballeurs professionnels, avait tranché la Cour.
Et puis Roberto Mancini reconnaît que quitter l'Italie pour l'Arabie Saoudite était une erreur.
L'ancien sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini a reconnu dimanche qu'il avait fait une erreur en quittant la nationale en août 2023 pour prendre les commandes de l'Arabie Saoudite, poste dont il a été licencié en octobre. Si je pouvais faire marche arrière, je ne reprendrais pas la décision de quitter la nationale parce qu'entraîner cette sélection est la chose la plus bête, a déclaré Mancini à la chaîne de télévision publique Rai. Sacré champion d'Europe en 2021 aux commandes de l'Italie, Mancini, 60 ans, avait démissionné à la surprise générale en août 2023 de son poste de sélectionneur en invoquant des désaccords avec ses dirigeants. Alors qu'il avait assuré n'être en contact avec aucun club ou aucune fédération, il avait été nommé quelques jours plus tard sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Son contrat expirant initialement en 2027 a été résilié en octobre dernier en raison des contre-performances de son équipe.
Et enfin, le Vendée Globe retrouve son public 4 ans après le Covid.
Quatre ans après la dernière édition partie sous cloche en plein confinement lié à l'épidémie de Covid-19, les pontons du célèbre Vendée Globe ont fait le plein au sable de l'Aune en novembre. Selon les organisateurs, 1,3 million de visiteurs se sont rendus dans la cité vendéenne pendant les 3 semaines du village. Une fréquentation record et un hausse de 10% par rapport à 2016. Merci Eric. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Yacouba Ouidraougo toujours avec vous pour vous présenter les dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le village d'Idendro, les agriculteurs louent la présence des soldats de la MONUSCO qui les protègent pendant les travaux champêtres, même si cette force onusienne avait fait l'objet de vives critiques dans ce coin du territoire de Djougou. Les agriculteurs semblent ne plus pouvoir vivre sans leur désormais ange gardien, alors que le Conseil de sécurité a renouvelé la semaine dernière le mandat de la MONUSCO pour 1 an. Le point avec Lionel Gaïma.
Sous le soleil brûlant, dans l'est de la RDC, Charles, déplacé résident de Dendro, s'occupe de son champ sous la protection des soldats de la paix des Nations Unies. La MONUSCO nous aide beaucoup avec cette sécurité pour notre survie. Les agriculteurs, dont beaucoup ont été chassés de chez eux par le conflit, s'abritent dans les camps situés à proximité de bases des Nations Unies. Lokana Héritier, 23 ans, a quitté son village pour vivre plus près des casques bleus.
Je suis venu ici parce qu'il y a la présence des MONUSCO. C'est à cause de cela que je pars maintenant au Tchad.
Parce que tu as perdu quoi?
J'ai perdu de l'Assaya, de Côte d'Eco.
La Côte d'Eco, coopérative pour le développement du Congo, est une milice affirmant défendre les intérêts de la tribu Lindou face à une tribu rivale, les Hema. Détenant Djaba Germain, leader de la société civile de Dendro.
Et même au cas où il y a des menaces de la part de nos frères Lindou, donc les éléments de la Côte d'Eco, ils sont aussi proches, ils ne sont pas loin, ils sont proches. Donc nous faisons signe, nous faisons l'alerte fréquence de la MONUSCO Bangladesh. En tout cas, elles nous interviennent vraiment.
L'opération visant à protéger les agriculteurs est connue sous le nom de Secure Harvest. Leur permet de travailler librement pendant la saison des récoltes et les protège des milices qui volent leurs produits et souvent les tuent. Brigadier général Monzourul Alam, commandant du secteur nord de la MONUSCO.
L'objectif principal est de sécuriser les agriculteurs sur leurs terres lorsqu'ils travaillent. Nous pensons que cela est directement lié à la protection des civils pour laquelle la MONUSCO est mandatée.
La MONUSCO est déployée en RDC depuis 2010 pour sécuriser la région troublée de l'Est. L'année dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait approuvé la fin de la mission à la demande du président Félix Tshisekedi. Mais le gouvernement a demandé à la mission de rester dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu jusqu'à ce que les conditions soient remplies pour le départ de la force. Le Conseil de sécurité a prolongé le 20 décembre d'un an le mandat de la MONUSCO.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
En cette année 2024, les électeurs se sont mobilisés dans le monde et plus d'une douzaine de pays d'Afrique ont organisé des élections présidentielles, parlementaires ou locales. Alors que certains partis dominants de longue date ont conservé le pouvoir dans certaines parties de l'Afrique et d'autres ont subi des défaites cuisantes. Mariama Diallo, chef du bureau de VOA Nairobi, examine comment la démocratie s'est comportée cette année sur le continent. Le récit est de Claire Morin-Gibou.
Certains résultats des élections cette année en Afrique étaient attendus, d'autres ont été surprenants. Au Sénégal, par exemple, l'incertitude des élections s'est transformée en un accomplissement historique puisque l'opposant Bassirou Diomaye Faye a été élu et à 44 ans, devenant le plus jeune président d'Afrique. Sa victoire est intervenue après l'échec d'une tentative du président sortant Macky Sall de reporter le processus électoral, créant ainsi une brève crise politique dans le pays. L'analyste Teddy Kaberuka estime que des leçons peuvent être tirées pour le cas du Sénégal.
C'est un scénario très intéressant, très instructif pour ceux qui apprennent ce qu'est la démocratie.
Au Ghana, après avoir effectué un seul mandat, John Mahama a fait un retour fracassant en 2024 et a battu le vice-président et candidat du parti au pouvoir, Mahamudu Bawumia. Pour Kwame Asante, de nombreux Ghanéens avaient à l'esprit l'économie et la situation financière de leur famille au moment de voter.
Parce que c'est une question de pain de beurre. Nous avons vu à maintes reprises que chaque fois que l'économie est très difficile, la campagne devient difficile pour le gouvernement en place.
Mahama promet d'améliorer une économie qui se remet lentement d'un défaut de paiement de 30 milliards de dollars en 2022. Le Botswana est entré dans une nouvelle ère en élisant un dirigeant issu de l'opposition pour la première fois en près de 60 ans, après des décennies de règne d'un seul parti. Contrairement au Botswana, le parti Frelimo du Mozambique a remporté une nouvelle victoire après près de 50 ans au pouvoir. Les résultats ont été immédiatement rejetés par le chef de l'opposition, Venancio Mondlane, qui est arrivé en deuxième position, ce qui a déclenché de violentes manifestations dans ce pays d'Afrique australe. Kwaku Nuama de l'American University espère que Daniel Chapeau du Frelimo pourra éviter un conflit prolongé au Mexique.
Lorsque vous gagnez, vous avez la responsabilité d'unir le pays. J'espère qu'il sera capable de le faire. Nous n'avons pas besoin d'un autre pays africain qui s'enflamme.
De même, le parti au pouvoir en Namibie, la SWAPO, a conservé le pouvoir après plusieurs décennies de gouvernance, mais est entré dans l'histoire en élisant sa première femme présidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah. Son principal adversaire a qualifié les élections de profondément erronées après que de nombreux exemples de difficultés techniques et de pénurie de bulletins ont été signalés le jour de l'élection. Au Rwanda, le dirigeant de longue date, Paul Kagame, a obtenu près de 100% des voix, une victoire écrasante.
Si 98% de la population vote pour un candidat, c'est un signal d'alarme.
Si les détracteurs de Kagame affirment qu'il est resté trop longtemps au pouvoir, d'autres disent qu'il a beaucoup fait pour le pays.
Les résultats sont tangibles, on peut les voir.
En Afrique du Sud, le Congrès national africain au pouvoir depuis 30 ans n'a pas réussi à remporter les législatives avec une majorité absolue, ce qui l'a contraint pour la première fois de son histoire à former un gouvernement de coalition. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Un nouveau logiciel d'intelligence artificielle a été développé pour lire et analyser les scanners cérébraux des patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux AVC. Cette technologie permet de déterminer avec plus de précision le moment de l'incident et d'aider les médecins à décider si un traitement est encore possible et efficace. Le récit est de Nanit Talani.
L'objectif est de fournir un traitement d'urgence plus rapide et plus ciblé dans un environnement hospitalier, ce qui est essentiel car les traitements standards ne sont efficaces qu'au tout début de l'AVC. Le moindre retard peut entraîner des dommages supplémentaires irréversibles. Cette avancée est donc particulièrement importante. C'est ce qu'explique le docteur Paul Bentley, consultant neurologue à l'Imperial College Healthcare, NHS Trust.
And the problem is that we don't always know exactly when the stroke began.
Le problème est que nous ne savons pas toujours exactement quand l'AVC a commencé. Et même chez les personnes dont nous connaissons le début de l'AVC, le problème est que les AVC évoluent à des vitesses différentes. Certains progressent très vite, d'autres plus lentement. La difficulté est donc de savoir quand l'AVC s'est produit et à quelle vitesse il évolue dans le temps. Cela nous aide à savoir quand nous devons administrer ces médicaments ou ces traitements chirurgicaux qui peuvent aider les gens au bon moment.
Développé par des chercheurs de l'Imperial College London, de l'Université technique de Munich et de l'Université d'Édimbourg, ce logiciel répond à deux des défis majeurs dans l'évaluation des patients victimes d'AVC. Identifier l'instant où l'AVC a commencé et savoir si les dommages cérébraux peuvent être réversibles. Écoutons encore le docteur Paul Bentley.
Nos calculs suggèrent que cela signifie qu'environ 50% des patients en plus seront traités de manière appropriée avec les bons traitements en situation d'urgence, ces traitements étant soit un médicament qui détruit les caillots, soit une technique chirurgicale qui nous permet d'extraire les caillots sanguins. En effet, il peut être dangereux d'administrer ces traitements trop tard, car il y a un risque d'hémorragie ou de détérioration. Il n'y a aucune chance qu'ils soient bénéfiques.
Le docteur Paul Bentley explique que ce logiciel d'intelligence artificielle offre des informations essentielles sur le moment précis de l'AVC et sur les perspectives du patient.
Nous pouvons donc dire aux patients et à ses proches quelle est la probabilité d'un handicap ou la probabilité qu'il puisse se remettre de l'AVC, ce qui est beaucoup plus que ce que nous pouvions faire auparavant.
Cette avancée technologique marque une étape importante dans la prise en charge des AVC, permettant non seulement un diagnostic plus précis, mais aussi une meilleure gestion des traitements d'urgence, avec des perspectives prometteuses pour améliorer les taux de récupération des patients.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Côte d'Ivoire, la chef Zeynab Bansé a battu le record du monde du plus long marathon culinaire individuel. Elle a complété hier matin 131h30 de cuisine en continu. Une épreuve qu'elle a entamée le mardi 17 décembre 2024. Il revient maintenant au livre Guinness des records de confirmer cette prouesse. L'ambiance de la journée de dimanche à Abidjan avec Jacques Aristide.
Des milliers d'Ivoiriens agglutinés contre des barrières se sont succédé jour et nuit depuis mardi de la semaine dernière à l'Agora de Kumasi, quartier de la capitale économique. Ici et sur les réseaux sociaux, l'engouement pour soutenir Zeynab Bansé est énorme. Dans la foule qui criait « Victoire, victoire !» se trouvait Fatima Kamagaté, 25 ans.
C'est ma première fois de venir ici, j'aimerais vous dire. Et même si je n'ai pas goûté, mais pour le soutenir, c'est le mieux à faire.
Derrière la vitre de sa cuisine éphémère, un espace fermé au public, Zeynab Bansé s'active, debout, derrière des plats qui mijotent. Objectif, cuisiner pendant près d'une semaine, avec 5 minutes de pause par heure travaillée et 2 heures de sommeil par nuit, pour arracher le record du monde à l'Irlandais Alan Fisher, remporté en fin d'année dernière, avec 119 heures et 57 minutes sans interruption.
C'est ce c'était où c'est un peu compliqué pour la femme d'avoir une place, vraiment compliqué. Et notre métier n'est pas facile. Et le métier de chef, il n'y a pas beaucoup de femmes qui se posent dans ce métier, c'est plus d'hommes. Donc je voulais d'abord être reconnue pour ce que j'aime faire, pour ma passion de la cuisine et en grande quantité. C'est pourquoi j'ai choisi de faire ce défi. Donc je me sens très bien.
Yves Aristide Kouassi, 25 ans, était là également pour soutenir la chef ivoirienne.
Souvent, elle était un peu fatiguée, mais quand on commence à danser le coup du saut, elle remonte l'énergie, elle commence à danser et puis on est là. Elle cuisine, on mange, on envoie l'eau, on boit, nous on a la force, on est là. Quand on est là, la force est toujours soutenue pour nous. Et nous, maintenant, c'est pour terminer le challenge.
Zeynab Bansé a été suivie régulièrement par un médecin durant ce marathon culinaire. La chef du restaurant L'Autre Rive à Abidjan avait prévu de préparer près de 300 recettes, toutes ivoiriennes, kedjenou, sauce graines, sauce arachide et autres plats typiques. Les mets dont les ingrédients ont été achetés ou offerts par des commerces locaux sont allés dans les orphelinats, dans les hôpitaux et le reste partagé sur place. Des plats ont aussi été distribués à des personnes délogées et dont les habitations ont été détruites lors d'opérations de démolition dans plusieurs quartiers d'Abidjan.
Même s'il n'y a pas eu des de points, de toute façon, il est sérieux, souvent ils arrêtent de points. J'aurais quand même reçu quelque chose parce que le monsieur a rassemblé toute une population et ça, c'est quelque chose de très important. Là, on va au-delà du défi.
Chaque jour, des personnalités publiques sont venues la soutenir, de politiciens aux artistes tels que Magic System, en passant par Emer Safaï, entraîneur de l'équipe nationale de football, les éléphants vainqueurs de la dernière CAN, Coupe d'Afrique des Nations, événement lui aussi fédérateur.
Merci.
Voilà, c'est ici qui s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Merci de rester fidèle au programme de VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Yakuba Ouedraogo, Georges Léonard Sagno à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue sur voaafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali, et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui.